CQFD. Silvio Dolzan.
Bonjour. En bonjour, peut-être vous l'entendez qui sonne un tout petit peu différemment que d'habitude. Il y a des oiseaux autour de nous, on entend une cascade. Vous allez peut-être entendre aussi pousser les fleurs parce que nous sommes en direct du jardin botanique de Neuchâtel ce matin. À mes côtés, il y a Sarah Diren et Stéphane Delettreau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Sarah aussi.
Bonjour, je suis un peu loin.
Oui, mais ça va venir. Alors, si on est là, c'est pas pour rien. Certes, le cadre est magnifique, mais il y a deux bonnes raisons. Quelle est la première, Sarah ?
Eh bien, nous sommes au milieu, en fait, du jardin de l'évolution qui vient d'être inauguré ici. Vous pouvez voir, et surtout, vous pouvez comprendre comment une plante est devenue plante. Alors, c'est un long processus. Bactéries, algues, mousses, et puis enfin, les petites fleurs. Et là, vraiment, moi, je suis devant un étang avec des tritons qui vous saluent.
Eh bien, très bien, vous pouvez leur donner nos salutations à eux aussi. Stéphane Delettreau, l'autre raison pour laquelle nous sommes dans ce magnifique cadre, c'est pour lancer une semaine spéciale.
Oui, Botanica, donc une vingtaine de jardins botaniques dans toute la Suisse qui ouvrent leurs portes dès demain. Durant 9 jours, concerts, ateliers et conférences sont organisés autour des plantes et de la couleur. C'est le thème de cette 9e édition de Botanica. Alors, savez-vous, Silvio, qu'avant de conquérir nos potagers, la carotte n'était pas orange,
ah bon,
mais blanchâtre,
ah bon,
et qu'il existe des fraises blanches.
Ah ben, je ne le savais pas. Allez, une heure de botanique fondamentale et appliquée, c'est CQFD. Soyez les bienvenus. Et il y a 3 invités qui vont nous accompagner durant toute cette heure. Tout d'abord, le maître des lieux, le directeur du jardin botanique de Neuchâtel, Blaise Mélanzer. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Delettreau a dit des carottes blanches. Comment ça ? Parce qu'à l'origine, les carottes, on sait que c'est des racines et puis qu'elles ne voient pas la lumière.
Oui, alors les carottes blanches sont de l'Europe de l'Ouest. Et puis, il y a une deuxième variété qui est plutôt orientale, qui a des racines avec des pigments rouges. Et c'est l'homme qui a créé la carotte blanche, orange, si on peut dire, mm-hmm, en croisant ces deux espèces.
Ouais. Et si on suit le même raisonnement, on pourrait dire qu'en fait, un chou-fleur, c'est un brocoli qui n'a pas vu le soleil, non ?
Pas vraiment, non. Le chou-fleur, c'est plutôt un début d'inflorescence. Et il y a du reste des chou-fleurs verts, roses, jaunes.
Et beaucoup de blancs. Et les fraises blanches ?
Ah, les fraises blanches, c'est encore autre chose. C'est une variété, cette fois, naturelle d'une fraise du Chili, qui est une variété, une espèce de l'Amérique du Sud. C'est la grande fraise. Et puis, il y a une variété naturelle qui est blanche. Par contre, on a croisé ces fraises du Chili avec les fraises sauvages d'ici pour faire des fraises de plus en plus grandes.
Et elles ont le même goût, hein.
Alors, il peut y avoir des goûts très différents, mmh, dans les fraises, comme vous le savez.
Oui, tout à fait, oui. Et deuxième invité avec nous ce matin, Saskia Binchedler, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste à l'Université de Neuchâtel, vous vous intéressez aux interactions entre le sol, les champignons, les bactéries. On vient de parler de couleur, là, puisque vous êtes biologiste, produire de la couleur pour une plante, ça coûte, ça demande de l'énergie, non ?
Alors, en termes de biologie... Tout n'est finalement que coût et bénéfice. Donc on va faire quelque chose uniquement, si ça nous coûte quelque chose, on va le faire uniquement parce qu'on va pouvoir en tirer un bénéfice. Donc, en tout cas au niveau des bactéries et des champignons, et puis essentiellement les bactéries, on le verra plus tard, hein, si on fait de la couleur, c'est parce qu'on va faire de l'énergie avec.
D'accord.
A priori.
Alors Botanica, on l'a dit tout à l'heure, c'est une centaine d'activités, d'événements dans une vingtaine de jardins botaniques. On en a sélectionné 3, hein, un à Champey, l'autre à Genève. On va y aller bientôt là, dans ces deux endroits. Le troisième événement aura lieu ici à Neuchâtel mercredi prochain. Ça va s'intituler « Quand mon œil et ma bouche se mettent d'accord ». Au programme, il y aura des expériences sensorielles proposées par notre troisième invité du jour, Caroline Reverdy, spécialiste des saveurs et des senteurs. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez, on va commencer tout de suite, vous nous amenez là du fromage blond. Il y en a un qui est un peu rose, un qui est un peu blanc. Qu'est-ce qu'on va essayer avec ça ?
Eh bien, je vous propose de les goûter et d'essayer de décrire ce que vous ressentez. Par exemple, pour le premier qui est plutôt rouge.
D'accord, alors on va le goûter.
Très bon. Très bon, je confirme.
C'est fait, on dirait de la fraise.
On dirait de la fraise.
Mm-hmm. Voilà.
Plutôt fraise, ouais.
J'ai pas pris mon petit déjeuner, c'est parfait. On va faire goûter à Jérôme Nussbaum, qui est notre réalisateur
c'est
aujourd'hui.
C'est bon, ça va.
Tu maintenant goûtes le blanc ?
Oui, je vous laisse goûter le blanc.
On goûte le blanc.
Le blanc ?
C'est plutôt banane, ça, non ?
Ah, je pensais que c'était le rose.
Banane ?
Ouais, moi je dirais banane.
C'est plus sucré.
Plus sucré ?
Ouais. Mm-hmm. Plus sucré que le premier, mais...
C'est pas du fromage frais ?
Abricot. D'accord.
À abricot, oui. Ouais.
Donc on est d'accord que le premier serait plutôt dans les tonalités fraises, fruits rouges, et le second...
Ouais.
Alors j'ai plusieurs réponses, banane, abricot. Alors c'est là qu'on voit vraiment l'influence de la couleur sur la perception du goût, parce qu'en réalité il s'agit exactement du même mélange de fromage avec deux confitures. Il y a la fraise et l'abricot dans les deux fromages blancs.
Et c'est la couleur en fait qui nous, entre guillemets, qui nous induit en erreur.
Voilà, on a tellement l'habitude d'attendre un goût fraise quand on voit du rouge qu'automatiquement on s'oriente vers cette réponse.
J'y crois pas.
Ah ouais. Non. Merci Caroline Reverdy. On va vous retrouver tout au long de cette émission pour deux autres expériences. Hein. Alors on est ici au Jardin Botanique de Neuchâtel à l'occasion de Botanica, on l'a dit, à manifestation nationale, des animations, une vingtaine de lieux et notamment une animation au Jardin Botanique Alpin de Champélac où nous devrions retrouver Bertrand Fourère. Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Bertrand Fourère, vous êtes zoologue, vous allez animer à Champélac une visite guidée samedi 20 à 16h sur la manière dont les insectes et spécialement les pollinisateurs voient les plantes. Les insectes, ils voient mieux que nous, ils ont une vue plus étendue que la nôtre ?
Oui, donc l'intitulé, je dirais que c'est plutôt les fleurs parlent aux insectes et je vais vous expliquer pourquoi. On sait que la lumière du soleil éclaire les objets qui nous entourent. Mais si cette lumière nous paraît blanche, on sait qu'avec l'expérience de l'arc-en-ciel, les gouttes de pluie réfractent les différentes couleurs perceptibles par l'œil humain, le violet, le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Or, les insectes ont des yeux qui permettent de voir dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. Mais c'est surtout l'ultraviolet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, les insectes possèdent deux types d'yeux différents. Des yeux simples, qu'on appelle des ocelles, sont très simples et servent seulement à détecter des variations de lumière. Ils sont en général trois, placés sur le haut de la tête. À côté de cela, les insectes sont pourvus d'yeux dits composés, qui sont... composé d'une multitude de petits yeux simples collés les uns aux autres. On appelle ça des omatidies en termes spécialisés. Par exemple, la mouche possède environ 4000 omatidies et ça peut aller jusqu'à 30 000 chez certaines libellules. Alors, avec ces yeux composés, ces insectes sont capables de percevoir des couleurs, différents types de couleurs, et surtout dans le spectre ultraviolet. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce que l'œil humain distingue comme par exemple une plante à fleurs jaunes, eh bien l'insecte verra dans l'ultraviolet que le jaune uni que nous percevons est pas du tout le même pour l'insecte, c'est-à-dire que la plante elle est décolorée blanche dans la périphérie et puis au centre, il y a des taches noires, il existe certaines plantes qui ont développé dans leurs fleurs comme des stries qui sont comme des pistes d'atterrissage, des signaux si vous voulez, que les insectes peuvent détecter.
C'est l'ILS des insectes. Vous avez parlé de beaucoup de couleurs, vous n'avez pas parlé du blanc. Est-ce que les insectes voient le blanc ?
Alors, on ne peut pas vraiment le savoir. Ça veut dire que les plantes à fleurs blanches... sont en général pourvues, attirent les insectes et sont pourvues en général à l'ultraviolet justement de ces stries foncées qui attirent les insectes. Le blanc lui-même, je ne pourrais pas vous dire, je ne pense pas qu'il voit vraiment le blanc.
Bertrand Fourère, pour donner une idée de la vision des insectes, qu'est-ce que vous proposerez samedi au public ?
Alors moi j'ai amené évidemment des planches explicatives et je vais me procurer chez un photographe un filtre qu'on appelle un filtre coquin qui permet de composer une image mosaïque si on veut, c'est un peu un artifice pour que les gens puissent réaliser un petit peu la vision qu'un insecte peut avoir d'une fleur. Donc c'est une vision en mosaïque. Si vous regardez une plante, par exemple une plante, une fleur de souci qui nous paraît uniforme jaune-orange, pour l'œil composé d'un insecte, il voit ça à travers une espèce de grille, avec comme les cellules d'une ruche, donc comme une espèce de grille, si vous voulez, avec une résolution beaucoup moins bonne que la nôtre. Par contre, c'est justement ça l'intéressant, c'est que les fleurs ont développé, puisque les fleurs, en fait, sont les organes reproducteurs des plantes, elles doivent attirer les insectes pollinisateurs pour se féconder. Et donc, elles ont développé des stratégies, par exemple, en attirant les abeilles, par exemple, avec du nectar, qui est une espèce de cadeau. C'est un peu un marché win-win entre la fleur et l'insecte. Donc, l'insecte va polliniser les fleurs en sachant qu'il a en récompense du nectar.
C'est bien ça, c'est quand même, c'est quand même c'est vraiment
c'est une coévolution qui est fantastique. On constate ça depuis l'apparition des plantes à fleurs.
Donc les plantes utilisent la couleur parce qu'elles ont besoin des insectes et vice versa. Merci beaucoup Bertrand Fourère. Je rappelle
je vous en prie.
Je rappelle que ce sera donc votre visite guidée le 20 juin au Jardin botanique alpin de Champellac, qui va s'intituler « Comment les insectes voient-ils les plantes ?»
Voilà. Oui, je voulais juste poser une petite question à Blaise Mulhauser, parce qu'ici on est donc au milieu du Jardin botanique de Neuchâtel. Je vois encore pas mal de jaune ici. Alors un peu, hein, il y en a de moins en moins, mais il me semble que le jaune est très présent au printemps. Est-ce que c'est justement pour attirer les insectes ?
Oui, alors on l'a bien entendu. Le jaune, nous le percevons très bien. Donc c'est presque l'une des couleurs qu'on perçoit le mieux avec le vert, hein, dans le spectre humain. Par contre, autant les insectes que les oiseaux peuvent percevoir l'ultraviolet. Et toutes les fleurs que nous voyons jaunes, la plupart ont des pigments ultraviolets, pas forcément sur l'ensemble de la corolle, mais sur certaines parties des pétales, ce qui fait que nos fleurs jaunes, finalement, ce ne sont pas des fleurs jaunes.
Et quelles sont les couleurs que les insectes ne perçoivent pas ici ?
Alors ici, ils vont percevoir à peu près tout, mais c'est vrai que le meilleur spectre lumineux pour les insectes, c'est l'ultraviolet, comme ça a été signalé. Et puis, le jaune et le vert sont à peu près au centre de ce prisme. Donc, tout le monde, toute espèce animale perçoit le vert et le jaune. Après, le coquelicot que nous percevons très rouge, une abeille va le percevoir plutôt bleu-violet.
Mais ça veut dire en fait que les couleurs, on voit leur importance là entre les interactions entre les insectes et la fleur. Elles ont toutes une véritable raison d'être. Une rose rouge n'est pas rouge rien que pour être jolie, donc ça veut dire.
Oui, alors je vais vous répondre très clairement oui. Mais effectivement, nous ne connaissons encore pas tout. Et ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est se mettre dans l'œil de l'insecte, de l'oiseau, du gibier ou d'autres espèces, quelle que soit l'espèce animale, pour mieux comprendre les interactions qu'il y a entre une fleur et un animal. Et c'est un mystère que je trouve extraordinaire. On n'a pas encore de vocabulaire en France, voire même dans tous les pays du monde, pour exprimer cette sorte de chimio-conscience que la fleur a de la perception des pigments ultraviolets par les oiseaux et les insectes. Comment fait-elle pour le savoir ?
Ben oui. On va leur poser la question. Il y a une très jolie
Sarah
plante.
Sarah est partie vers un rosier grimpant. Ou
voilà,
je pose la question, elle ne dit rien. Saskia Binchendler, cet aspect des couleurs en biologie, vous le prenez en compte aussi ?
Alors, moins dans le sens où c'est pas quelque chose qui est important comme l'interaction entre, on va dire, les plantes et les insectes. Mais au niveau des bactéries, il y a beaucoup de bactéries qui font des couleurs très caractéristiques parce qu'elles utilisent ça pour capter l'énergie du soleil et pour produire de la biomasse. Et
elles produisent de la couleur, en l'occurrence, les bactéries ?
Oui, elles font. C'est simplement des pigments. Et la couleur du pigment définit quelle longueur d'onde de lumière elles vont utiliser.
Oui, lorsque vous dites c'est de l'énergie, elles utilisent la lumière pour l'énergie, effectivement, c'est leur nourriture.
Oui.
C'est la seule nourriture.
Nous, on a besoin de manger un morceau de poulet. Elles ont besoin de manger différentes choses, mais de la lumière.
Et l'interaction des bactéries avec les plantes, avec le monde végétal, elle est énorme aussi, j'imagine.
C'est absolument essentiel, je dirais, pour la croissance des plantes.
D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure.
On va le voir tout à l'heure.
Oui, Blaise Mulhauser.
Sauf erreur, chez les champignons et les bactéries, il y a aussi ce phénomène assez étonnant de bioluminescence.
Mm-hmm. C'est-à-dire ?
Alors, ils arrivent à produire une espèce de clarté à un moment donné de leur vie, sauf erreur, pour attirer à nouveau plutôt les... En tout cas, pour les champignons bioluminescents, c'est plutôt pour attirer certains insectes qui sont...
C'est pas quelque chose qui est complètement compris encore, mais oui. On pense que c'est pour attirer des insectes ou alors simplement pour détoxifier certaines substances.
Au même titre que les fleurs utilisent la couleur, donc les champignons utilisent la bioluminescence pour attirer les insectes.
Il semblerait.
Il y a encore bien
des odeurs aussi. Hein, beaucoup, c'est beaucoup des odeurs en fait chez les champignons.
D'accord. On va voir tout ça tout à l'heure en parcourant le jardin de l'évolution. Donc c'est QFD toujours en direct du jardin botanique de Neuchâtel. Il est presque 10h20 et on écoute Raphaël.
CQFD, votre émission de science et de santé.
J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé. J'ai tout abîmé. J'ai regardé la terre, j'ai tant voyagé, j'ai repris tout à l'envers, mais j'ai tout abîmé. J'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver.
Raphaël, Eyes on the Island, à 10h23 dans CQFD. On est toujours en direct du Jardin botanique de Neuchâtel, en compagnie de trois invités, notamment son directeur, Blaise Mulhauser. On se trouve plus précisément tout à côté de ce fameux Jardin de l'évolution qui vient d'être inauguré. Ce jardin, c'est un peu votre bébé quand même, hein, Blaise Mulhauser. C'est en quelque sorte, en fait, une, une machine à remonter le temps. On va voir ça notamment avec Stéphane Delettreau qui, lui, est en train de cheminer dans le temps à quelque part derrière moi. Là. Et là, Stéphane, vous vous êtes arrêté devant une grande plaque qu'on voit à peine depuis là où on est. C'est quoi cette grande plaque ? Stéphane ? Bon. Alors, Sarah Diron, vous...
Alors, voilà, peut-être.
Stéphane.
Voilà.
Stéphane, c'est quoi la plaque devant laquelle vous vous êtes arrêté?
C'est magnifique déjà, mais c'est pas son nom. C'est absolument superbe, c'est un stromatolite. Alors, ça ressemble à une plaque de marbre couleur bordeaux, avec des lignes ondulées beige, une plaque d'environ 1,50 m sur 1 m, d'une épaisseur d'une dizaine de centimètres. Ce stromatolite, il date de, figurez-vous, 2 milliards et demi d'années. Et il est à la fois minéral et biologique. Il vit, c'est l'une des plus vieilles traces de vivant que nous connaissons aujourd'hui. Blaise Mulhauser, il est le produit du travail des bactéries?
Oui, il est le produit du travail de certaines bactéries qui sont les cyanobactéries, qui sont, pour parler de manière imagée, les inventeurs de la photosynthèse oxygénique. Et ça, c'est une étape extrêmement importante dans l'histoire de la vie sur Terre. C'est que le produit de cette photosynthèse, ou plutôt le déchet de cette photosynthèse, c'est de l'oxygène qui va se répandre rapidement dans l'atmosphère et qui va créer justement une nouvelle atmosphère qui sera respirable pour tous les organismes qui vont venir plus tard.
Ce stromatolite, je l'ai vu tout à l'heure, effectivement, ça ressemble à une plaque de marbre. Hein, il a 2,5 milliards d'années, mais Blaise Mulhauser, il ne faut pas le confondre avec un fossile. Hein. C'est pas un fossile, il y a un fossile là, juste là à côté de nous, qui dit autre chose. C'est un fossile d'une feuille de palmier, je crois. Et ça dit autre chose de l'évolution, en fait.
Oui, alors ce grand palmier fossile qui vient du Wyoming, qui a 50 millions d'années, c'est un traceur exceptionnel. C'est l'un de ces fossiles calibrés dans le temps qui nous permet de relier les différentes lignées, par exemple de végétaux, notamment chez les palmiers. Ce fossile est à la base d'une différenciation entre deux groupes de palmiers qui s'est produit il y a 50 millions d'années.
Ouais, on voit qu'il est nettement plus jeune avec ses 50 millions d'années. C'est déjà une plante, c'est un palmier nettement plus jeune que le stromatolite qui lui a 2 milliards et demi d'années et qui est formé en fait de bactéries, hein, de cyanobactéries. Il n'y a pas que Stéphane Delettreau qui est parti se balader. Il y a aussi Sarah Diron qui elle a pris un petit peu plus loin. Elle a pris de la hauteur et vous êtes au tout début de ce jardin de l'évolution, aux origines de la vie. Qu'est-ce qu'il y a?
Alors, aux origines de la vie, il y a bien sûr des bactéries. Il y a Saskia Binchedler. Oui, vous êtes donc microbiologiste, je le rappelle. Et puis, justement, vous connaissez bien ces bactéries, ces petites bestioles à qui nous devons finalement la vie. Nous sommes en fait ici devant une colonne. C'est un tube qui fait environ 15 cm de diamètre, 1,50 m de haut, un tube en verre avec une sorte de truc rouge bizarre.
Une soupe.
Alors ça, c'est typiquement des pigments de bactéries. En fait, ce qu'on voit, c'est des bactéries. Cette couleur rouge, c'est leur pigment qu'elles utilisent pour capter l'énergie de la lumière et puis pouvoir faire de la biomasse et faire tourner leur mécanisme cellulaire.
Donc en fait, on appelle ça une colonne de Vinogradsky.
Voilà, exactement.
Et qu'a fait Monsieur Vinogradsky? En fait, il a voulu démontrer comment fonctionne un sol.
Exactement, c'est un des premiers microbiologistes au début du XXe siècle qui s'est intéressé justement à quel est le rôle de toutes ces bactéries dans l'environnement et notamment dans le sol.
Donc il a pris un tube, il a mis un petit peu d'eau, il a laissé le tout, un peu de sol. Il a surtout mis du soufre.
Alors le soufre, il est absolument essentiel pour que cette colonne de Vinogradsky fonctionne. Et puis il est quelque part recyclé par les bactéries. Les déchets des unes sont utilisés par les autres, qui font des déchets qui sont utilisés par les autres. Et la seule entrée dans cette colonne, c'est la lumière. Le reste, il y a absolument tout qui est recyclé de manière complètement rationnelle.
Oui, c'est-à-dire que si je mets un peu de sol chez moi, que je ferme mon bocal, mais que je ne mets pas de soufre, ça va durer un certain temps, ça va pourrir, mais ça va pas être recyclé. Parce que cette colonne pourrait durer des millénaires et des millénaires, tant qu'elle a de la nourriture, c'est-à-dire de la lumière.
Exactement. Parce qu'il y a des bactéries qui vont utiliser la lumière pour faire de la biomasse, que d'autres vont consommer, etc. Mais en soi, vous pourriez faire ça avec du sol à la maison, ça fonctionnerait probablement, parce qu'il y a toujours un peu de soufre dans le sol.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme forme de morale? C'est-à-dire que la nature et ses bactéries savent utiliser les ressources d'une manière très rationnelle, toutes les ressources de la nature.
Oui, exactement. Parce que dans cette colonne, ce qui se passe, c'est que tout le monde s'autorégule et qu'on arrive à quelque chose de rationnel.
Et donc, Saskia Mitchell-Lehr, si je vous comprends bien, c'est un système sans fin, enfin éternel. Ça continue à tourner, à s'auto-alimenter.
Alors, complètement. Et quelque part, ça représente un peu le système de la planète Terre. Si on considère la Terre dans son ensemble, la seule entrée, de nouveau, c'est la lumière du soleil. Donc, si on savait utiliser nos ressources rationnellement, on pourrait fonctionner comme une colonne de Vinogradsky.
Mais là, vous avez dit que si je veux le faire à la maison, je dois rajouter un tout petit peu de soufre. Pourquoi ?
Parce que ça va stimuler tout ce cycle du soufre et puis stimuler quelque part le recyclage.
D'accord.
Voilà. Après, c'est des détails.
Oui. Un peu compliqué, un peu chimique. Mais alors, on va vous retrouver tout à l'heure, Saskia Mitchell-Lehr, mais là, on va d'abord retourner vers Stéphane Delettreau qui continuait à marcher à travers le temps dans le jardin de l'évolution. Alors, il en était tout au début avant avec le stromatolite. Où en êtes-vous maintenant, Stéphane ?
Alors là, je suis à mi-parcours des origines de la vie devant une de ces colonnes en bois surmontées d'un petit toit à quatre pans. Et cette colonne, il y a une petite porte. Allez, je l'ouvre. Vous êtes d'accord ?
Allez-y, allez-y.
Allez, c'est parti.
Faites gaffe quand même.
Voilà. Eh bien, figurez-vous, hein, je me trouve exactement au poste symbiose champignon-racine. C'est ce qu'on appelle mycorhize. En fait, sans cette interaction, sans cette mycorhize, il n'y a pas de plante, Saskia Mitchell-Lehr.
Alors oui, je pense qu'on peut dire ça. Hein. Il y a plus de 90% des plantes qui sont mycorhizées. Tout l'organe de la plante qui est dans le sol, c'est presque... C'est le champignon qui le stimule. Hein. Ouais.
Oui, mais tout à l'heure, vous nous disiez qu'effectivement, les plantes ont besoin de lumière. La seule énergie qu'elles ont, leur énergie, c'est la lumière. Ce n'est pas tout à fait juste, puisqu'elles ont besoin de ces petits champignons qu'on voit effectivement ici à mi-parcours. Elles ont besoin de ces tout petits champignons pour vivre.
Alors, en fait, c'est un réel contrat qui est entre les deux organismes où on a la plante qui va utiliser de l'énergie, qui va transformer de la biomasse, qui va en fournir aux champignons. Et en échange, le champignon, il va donner des nutriments et de l'eau. C'est vraiment un bénéfice mutuel. C'est pour ça qu'on appelle ça une symbiose.
Voilà. Et puis, symbiose, nous sommes ici parce qu'on marche en même temps. On vous fait vous déplacer. On risque de se casser la figure.
Chaque pas, c'est un million d'années, en gros. Hein.
Oui, carrément. Oui, puis effectivement, on voit ces grandes stèles. Et ici, on est dans le sortir de l'eau. Toutes les plantes qui sont sorties de l'eau avec des stèles. Ici, on est à 420 millions d'années. On voit des algues, différentes algues. Puis les algues sont devenues mousses. Et justement... Saskia Mitchell-Lehr, les mousses, elles ont commencé à avoir des champignons, des petites mycorhizes, elles se sont accrochées.
Alors, la sortie de l'eau des plantes, elle s'est faite via les champignons. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. Depuis ce moment-là, il y a une réelle coévolution entre ces deux organismes, un peu comme les insectes et les plantes dont on a discuté avant. Ici, c'est exactement la même chose.
Sans les champignons, les plantes seraient restées algues.
Ça c'est hypothétique, on pourrait le dire, mais c'est vraiment eux qui ont permis de pouvoir aller exploiter une surface sèche, hein. C'est ça finalement.
Parce que juste à côté des mousses, alors il y en a de très belles espèces de mousses, mais alors tout à fait naturelles, ici il y a un rocher, il y a justement à côté des prêles et des fougères. Alors Blaise Mulhauser, je ne sais pas si vous nous entendez, je
très bien.
Vous vois au loin, voilà Blaise Mulhauser. Donc maintenant à partir de là, on a des prêles, on a des fougères, on a les fleurs, on a les plantes, et puis c'est bon, voilà, on a le jardin botanique.
C'est parti, on c'est part ça. En direction des plantes à fleurs, exactement.
Mais en fait, ces prêles et les fougères, juste après, il y a d'abord eu les prêles, puis ensuite les fougères, c'est vraiment les ancêtres d'un peu toutes les plantes.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les prêles d'aujourd'hui, les lycopodes d'aujourd'hui, les fougères d'aujourd'hui, ce ne sont évidemment pas les ancêtres des plantes à fleurs, mais si on repart depuis la sortie des eaux par les algues, puis les mousses, à chaque fois, une lignée de ce groupe un peu plus primitif a réussi une évolution adaptative qui lui permet d'aller d'abord s'ancrer dans la terre, hein, puisqu'il faut bien imaginer qu'il y a 450 millions d'années, quand les plantes sont sorties de l'eau, le sol n'existait pas. c'est les organismes vivants qui ont créé le sol. Et ça, c'est une pellicule qui est vraiment fragile, qu'il faut absolument pouvoir conserver. On la conserve, pourquoi ? Parce que justement, toutes les symbioses mycorhiziques entre les champignons, les plantes et les bactéries est essentielle pour notre vie. Et à partir de là, les plantes ont pu avoir plusieurs nouveautés, notamment le fait de pouvoir s'enraciner dans les pierres, hein, donc la naissance des racines, mais aussi pouvoir créer des feuilles qui sont nos cellules photovoltaïques des plantes de plus en plus performantes, et puis également s'élever dans les airs en imaginant des tissus de soutien, ce que les mousses n'avaient pas, et ce que les lycopodes ou les prêles vont pouvoir faire. Donc s'élever dans les airs, ça veut dire pousser de plus en plus haut pour, par exemple, au Carbonifère, être dans une forêt de lycopodes et de sélaginelles de plus de 30 mètres de hauteur.
Mais c'est quand même fascinant, ça, de savoir que n'importe quel chêne, n'importe quel séquoia monstrueux, à la base, en fait, son ancêtre très, 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 très loin, c'est une algue.
Oui, et puis j'irai même plus loin encore. Ouais. Nous sommes tous des usines à bactéries, puisque dans nos cellules, nous avons ce que nous appelons des endosymbioses, des organites de cellules qui étaient à l'origine des bactéries libres.
Mais si on prend les prêles, par exemple, Blaise Mulhauser, ça veut dire que les prêles n'avaient pas besoin d'insectes ?
Les prêles n'avaient pas besoin d'insectes, et un certain nombre de plantes à fleurs n'ont toujours pas besoin d'insectes. Ce sont par exemple les graminées, les céréales qui sont, elles, pollinisées par le vent. On les voit juste derrière nous. Et si vous regardez leurs fleurs, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas, elles existent, mais elles sont verdâtres. Elles n'ont pas besoin d'être roses, violettes, jaunes ou rouges.
Oui, il y a tout à côté de nous. Il y a de l'orge, il y a du sel, il y a du blé, il y a un petit peu de tout. Vous parlez des fleurs, justement. Alors, bon, au bout d'un moment de l'évolution, les fleurs sont apparues, mais produire de la couleur, j'ai bien reçu la leçon, madame Binchedler tout à l'heure, ça demande de l'énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un moment dans l'évolution et dans le temps, l'environnement est devenu plus favorable et que les plantes ont eu un peu plus d'énergie à disposition pour produire ces fleurs et donc de la couleur ?
Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ce qu'on sait, c'est que les plantes à fleurs sont apparues au Crétacé il y a 140 millions d'années. Et le Crétacé, ça a été une période de climat plus chaud qui a favorisé justement des plantes, enfin qui a favorisé la photosynthèse, donc des plantes plus vigoureuses qui ont eu cette énergie nécessaire pour créer des fleurs de plus en plus complexes, mais tout en cheminant tranquillement à côté des insectes qui eux aussi s'adaptaient à ces fleurs qui étaient de plus en plus complexes.
Et est-ce qu'on sait à quelle époque, vous répondez ou Madame Binchedler répond, est-ce qu'on sait à quel niveau de l'évolution, à quelle époque, en année, ces interactions entre les insectes et les fleurs ont débuté ? Bon, il a fallu que les insectes apparaissent, évidemment, mais est-ce qu'immédiatement, il y a eu ces interactions ? Est-ce qu'on sait ça ?
Alors, les interactions, elles se sont faites très rapidement, mais c'est une histoire de coévolution, hein, donc... Il y a insectes et insectes. Les insectes pollinisateurs, eux, sont apparus il y a environ 120 millions d'années. Et si on prend le cas de tout le groupe des hyménoptères qui vont, passez-moi l'expression, donner naissance aux abeilles, les premiers hyménoptères pollinisateurs, eux, ont par exemple pas du tout de poils autour de leurs pattes ou de leur corps. Mais ils vont quand même capturer un certain nombre de pollen par le hasard des choses. Et ce pollen étant très riche pour nourrir leurs larves, eh bien ces guêpes de l'époque ancienne vont petit à petit passer sur un régime alimentaire plutôt de pollen et de nectar plutôt que de proie animale.
Le hasard, vous parliez de hasard, il a joué un grand rôle dans toute cette évolution ? Dans toute l'évolution ?
Ça, c'est une question
hasard
magnifique.
Hasard et nécessité.
Oui, alors, effectivement, moi, c'est ce qui m'intrigue le plus dans ce mystère. On en parlait avant avec la couleur de l'ultraviolet des pétales. Comment la plante peut-elle savoir que l'insecte voit cet ultraviolet ? Les micro-évolutions se sont faites et se font toujours en continu. Donc, nous avons cette possibilité, tous les organismes vivants, de co-évoluer. Et c'est peut-être la grande différence avec le darwinisme traditionnel, c'est que maintenant nous voyons les choses comme étant la vie est un tout et toutes les espèces coévoluent ensemble.
Mais vous disiez tout à l'heure, Blaise Mühlhauser, que 120 millions d'années apparaissent les insectes pollinisateurs. C'est vrai que si on prend, tout d'un coup, je ne sais, les conifères, pour se reproduire, n'ont pas besoin d'insectes pollinisateurs, ont le sexe mâle et féminin dans les mêmes branches. À quel moment, après les conifères, il y a eu?
Alors après, on a les angiospermes, les plantes à fleurs
et
qui apparaissent.
Et c'est à partir de là que ce jardin peut naître, que ce jardin de l'évolution peut naître.
Aujourd'hui, la grande diversité des plantes, ce sont les plantes à fleurs, hein, plus de 280 000 espèces de plantes à fleurs, alors que les autres groupes, il y a pratiquement plus que 20 à 30 000 espèces seulement.
Il y en a une bonne partie qui sont représentées ici au Jardin botanique de Neuchâtel où ces QFD se trouvent ce matin et où on va vous retrouver dans 3 minutes 40, quelque chose comme ça, après avoir écouté Anthony Strong.
CQFD sur la première.
Temperature's rising now. Power is the force, the vow that makes it happen. It asks no questions why. To get closer, ooh, closer to my body now. Just love me until you don't know how. Ooh, keep on with the force, don't stop till you get enough. Keep on with the force, don't stop till you get enough. Keep on with the force, don't stop till you get enough. Keep on with the force, don't stop till you get enough. Touch me and I feel on fire. Ain't nothing, nothing like a love desire. I'm melting like hot candle wax. Sensation, lovely way. Till you get enough.
Anthony Strong, Don't Stop Till You Get Enough. Eh ben nous non plus, on va pas s'arrêter avant d'en avoir assez, donc on va continuer encore un petit moment. On est toujours en direct dans ces QFD du Jardin Botanique de Neuchâtel, et toujours, notamment avec Caroline Reverdy, spécialiste des saveurs et des senteurs, qui va intervenir ici mercredi prochain avec quelque chose qui s'intitule « Quand mon œil et ma bouche se mettent d'accord ». Alors on a fait une expérience tout à l'heure avec deux fromages blonds, où en fait il y avait les mêmes choses dedans, mais simplement il y avait deux couleurs différentes, donc on s'est tous à peu près trompés. Hein, et maintenant, qu'est-ce qu'on va goûter ?
Alors, je vous ai préparé une petite boisson, mais pour cet exercice, au départ, vous allez la boire en vous bouchant le nez.
Voilà, en tenant le micro, ça va être très pratique.
On va devoir poser le micro.
Prenez une gorgée en vous bouchant le nez, vous pouvez l'avaler. Voilà. Est-ce que vous avez senti quelque chose ?
À peine un tout petit peu d'acidité, mais vraiment pas grand-chose.
En final, ouais, quelque chose de très faible.
D'accord, on dirait de l'eau.
Ouais,
on dirait de l'eau, d'accord.
Ouais.
Alors ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on débouche le nez, c'est là que des saveurs arrivent.
Alors ce sera la deuxième partie de l'exercice. Effectivement, je vous demande de le boire normalement, c'est-à-dire sans vous boucher le nez, tout simplement. Et
là, c'est très clairement citronné.
C'est citronné.
Enfin, agrumé, en tout cas.
De la menthe.
De la menthe. Donc vous avez plus senti quelque chose que tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal, puisque cette fois-ci, ça peut faire appel d'air, et donc les arômes qui sont dans la bouche peuvent remonter jusqu'au niveau du nez et puis être perçus par l'odorat. C'est alors qu'on va donc sentir les arômes agrumes, citronnés, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y avait autre chose que ces arômes ?
Non, franchement pas. A priori,
d'accord,
pas.
Ok. C'est donc vraiment une manière de voir comment on perçoit l'arôme agrume. Et si on avait eu une saveur acide, on l'aurait senti précédemment, c'est-à-dire au moment où on avait le nez bouché.
Ah oui, mais c'est vrai que on a vu tout à l'heure les interactions entre les yeux et le goût, en fait. Et maintenant, entre l'odorat et le goût, en fait, tout va avec tout, un peu comme dans l'évolution des plantes. Blaise Mulhauser, on revient vers vous. On va vous retrouver tout à l'heure, Caroline Reverdy, pour une dernière expérience. Je dirais Blaise Mulhauser, donc directeur de ce jardin botanique, instigateur de ce fameux jardin de l'évolution. Juste à côté de nous, il y a un lotus. Ah, d'accord. Mais vous l'avez mis, en fait, on l'avait mis très loin des nénuphars. Pourtant, il me semble que ça se ressemble, non ?
Oui. Alors là, c'est vraiment une évolution adaptative. Ces deux plantes ont trouvé la même solution pour pouvoir favoriser la photosynthèse avec c'est des plantes aquatiques, mais qui ont des feuilles flottantes à la surface de l'eau, qui leur permet justement d'avoir une photosynthèse améliorée et aussi de soutenir toute la plante grâce à ces grands flotteurs que sont les feuilles. Par contre, elles sont pas du tout de la même famille botanique.
Ah bon ?
Les nénuphars sont des plantes plus primitives que le lotus sacré, qui est dans une famille qui est plus proche des platanes.
Des platanes, carrément.
Oui.
Ah bon, d'accord. Ben franchement, les voir comme ça, on dirait que c'est vraiment les mêmes, quoi.
Oui, alors c'est toute l'histoire, en fait, de la classification phylogénétique, c'est-à-dire cette étude génétique qui permet de mieux comprendre les liens de parenté entre les plantes. Et ces études génétiques ont permis de montrer que le lotus sacré était plus proche des platanes et surtout très éloigné des nénuphars. Et on a pu confirmer cela aussi par des caractères morphologiques. Donc les deux techniques, la botanique classique qui se basait sur la morphologie et la nouvelle manière de travailler sur la génétique des plantes se sont rejointes. Les grains de pollen du lotus sacré sont des grains à trois ouvertures, pour parler simple, alors que les nénuphars n'en ont pas. Donc les pollens sont totalement différents.
Ah oui, d'accord.
Alors ce jardin, Blaise Mulhauser, c'est vraiment un extraordinaire laboratoire à ciel ouvert. Vos étudiants viennent ici aussi faire de la recherche ?
Alors on a surtout les étudiants en botanique qui viennent, grâce justement au professeur de botanique, Jason Grant, qui amène ses étudiants pour essayer de comprendre cette nouvelle classification phylogénétique. Et puis on espère que les autres laboratoires de l'Université de Neuchâtel puissent venir aussi travailler dans ce jardin.
Et vous aussi, Saskia Binchedler, vous venez gratouiller les sols du jardin avec vos étudiants ?
Mais alors, malheureusement pas. C'est en venant ici que je me dis que peut-être qu'on devrait.
Bah oui, vous devriez.
Le début d'une vocation.
Non, mais c'est intéressant parce que juste derrière nous, caché un tout petit peu plus loin du jardin de l'évolution, Blaise Mühlhauser, vous avez créé une tourbière, c'était en septembre dernier. C'est une très belle tourbière. Pourquoi ?
Alors c'est une petite tourbière qui nous permet de travailler sur les études climatiques. C'est une collaboration entre l'Université de Neuchâtel, le laboratoire de biologie du sol du professeur Mitchell et le jardin botanique de Neuchâtel. Cette étude sur les climats, elle est très intéressante parce que la plupart des gens imaginent que le climat, c'est d'abord une histoire aérienne. Et en fait, la plupart du temps, ça vient du sol, de nouveau. Selon comment on traite notre sol, qu'il soit érodé ou qu'il disparaisse ou bien qu'il soit tassé, il va y avoir une activité biologique qui est plus ou moins grande. La tourbière, l'intérêt, c'est que c'est un milieu aquatique, presque aquatique en fait. Pour qu'une tourbière puisse bien fonctionner, il faut que le niveau de l'eau soit toujours affleurant. Et comme il manque de l'oxygène dans ce sol, eh bien le carbone va rester piégé dans le sol. Donc le carbone, gaz carbonique, gaz à effet de serre, bref, vous avez
notamment
compris.
Notamment dans les tourbières.
Alors, autre mission de ce jardin botanique, parce que bon, il est beau, il y a la recherche, et puis il y a aussi la conservation, Blaise Mühlhauser. On ne s'échange plus les graines comme on les échangeait avant. Il y a notamment la Convention de Rio. En 92 sur la biodiversité, qui fait que c'est pas si simple d'échanger et de conserver des graines.
Non, alors effectivement, maintenant c'est beaucoup plus compliqué et je dirais c'est tant mieux aussi, puisque l'une des principales activités des jardins botaniques, c'est de conserver un matériel génétique qui puisse être remis dans la nature. Et c'est tout le grand programme qui est mis en place par le réseau des jardins botaniques du monde de conserver notamment les graines, mais aussi les plantes que nous pourrions remettre dans la nature une fois qu'un milieu qui a disparu serait recréé.
Et parce que risque de pillage aussi ?
Alors justement, ça c'est la convention, le protocole de Nagoya qui a été mis en place en octobre 2014, qui essaye de faire en sorte que les ressources génétiques soient partagées par tous. Et c'est par le réseau des jardins botaniques que ces ressources peuvent être mieux comprises, étudiées, et puis que les connaissances peuvent être partagées. Oui.
Et tout le monde pourra les partager à l'occasion de Botanica, hein, dont 20 jardins botaniques à partir de demain et pour une semaine. La thème de cette 9e édition, Stéphane Letrault l'a dit, c'est la couleur et les plantes. Et nous avons avec nous par téléphone Didier Roguet, qui est conservateur du jardin botanique de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez inauguré le mois passé votre nouvelle expo qui s'appelle Plantes et spiritualité, qui est à voir jusqu'en octobre. À votre avis, ce serait quoi la couleur de la plante liée à la spiritualité ?
Il y a une plante qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la tagette, un peu une plante genevoise par excellence, ou qu'on croit telle, mais c'est en fait une plante originaire du Mexique, qui joue un rôle fondamental dans la fête des morts, par exemple en novembre au Mexique, on en fleurit tous les cimetières, etc. Et c'est paradoxalement une plante qui a émigré et qui a été colonisée par sa couleur, qui est la couleur sacrée de l'hindouisme, toute l'Asie. On la retrouve sur les tuniques des moines bouddhistes, bien évidemment, mais dans tous les temples hindous, on a des offrandes de tagettes, de guirlandes de tagettes merveilleuses. Symbole du renoncement, symbole de pureté, etc. Donc c'est une plante assez fascinante, une plante horticole chez nous, mais qui a une dimension tout autre, spirituelle, dans d'autres coins de notre belle planète.
Alors vous dites orange l'hindouisme. J'ai le sentiment, Didier Roguet, que lorsqu'on parle du christianisme, par exemple, c'est du blanc. On
ça peut être du blanc, oui, ça peut être du blanc, ça peut être de la pureté, mais ça peut être aussi du rouge. La rose rouge est la plante du Christ, donc il y a des couleurs en effet associées assez souvent à des religions, à des spiritualités, oui, tout à fait.
Mais dans la spiritualité, c'est vrai, notamment en Asie, on offre beaucoup de fleurs aux dieux divers. Est-ce que chez nous, ça a été chez nous aussi, quand on se marie, on offre des fleurs, etc., etc. C'est uniquement l'utilisation des plantes dans le spirituel, c'est uniquement ça, ou aussi on les utilise pour leurs bienfaits médicinaux?
Donc c'est vraiment la plante est un vecteur universel, omniprésent dans toutes les religions et toutes les spiritualités. Donc on a en effet cette fonction technique de couleur, mais elle peut être aussi de senteur, elle peut être de fumée, elle peut être symbolique, elle peut être aussi technique avec la verticalité, les arbres en l'occurrence, par exemple on pense aux cyprès des cimetières, cette espèce de verticalité qui va du tréfonds jusqu'à l'au-delà et qui emmène en fait nos prières, nos pensées, l'âme des défunts, par exemple, vers l'au-delà. Donc il y a toute cette symbolique-là. Puis il y a aussi le vecteur chimique. dans certaines religions, en particulier le chamanisme, pour ne pas le citer, on a une utilisation très claire de substances psychotropes pour se mettre dans une situation telle qu'elle fasse qu'on puisse communiquer ou qu'on croie communiquer avec des visions, avec des transes chamaniques, hallucinatoires, avec l'au-delà. Donc ces substances ont un effet direct sur notre organisme et modifient notre perception.
En fait, les plantes, c'est un peu le dénominateur commun de toutes les religions et spiritualités, en quelque sorte.
C'est clair, c'est ça qui est fascinant quand on creuse un peu le sujet, ce qu'on a fait ici, en l'état, pour cette exposition. Et c'est tout à fait fascinant, ouais, cette omniprésence, cette universalité, ces convergences qu'on trouve. On parlait de la tagette tout à l'heure, c'en est une, mais il y en a plein d'autres. Hein. Cet aspect aussi pacificateur, souvent. On peut penser à l'olivier, par exemple, qui est une plante reconnue dans toute l'idiosyncrasie méditerranéenne comme étant une plante de bienfait, une plante, mais qui a également ses paradoxes, puisque c'est aussi une plante liée à la guerre, etc. Donc c'est assez intéressant, toute cette thématique.
Merci Didier Roguet. Je rappelle que vous êtes conservateur du Jardin botanique de Genève, qui participe évidemment à Botanica, et où on peut voir en plus cette expo qui s'appelle Plantes et spiritualité. Très bonne journée à Genève.
Merci beaucoup, avec plaisir, au revoir.
Bess Müller-Zier, vous auriez dû vous lui prêter votre lotus sacré, là. Ça aurait pu lui être utile.
Je sais qu'ils ont des magnifiques lotus sacrés à Genève. Ouais.
Alors, il nous reste juste 2 minutes pour une expérience avec vous, Caroline Reverdy. Vous qui êtes spécialiste des saveurs et des senteurs, ça va être un tout petit peu plus long. Alors, on a mangé du fromage blanc, on a bu un liquide agrumé tout à l'heure. Cette dernière expérience, qu'est-ce que c'est?
Alors, je vous ai préparé plusieurs infusions de plantes à base de verveine. Et vous avez aussi à côté de vous une petite grille avec plusieurs petits smileys pour dire si vous aimez beaucoup, un peu ou pas du tout. Donc je vous laisse goûter ces 4 petites recettes.
Dans l'ordre? Alors, pendant que tout le monde le fait, dans l'ordre, oui?
Oui, dans l'ordre.
Voilà. Pendant que tout le monde le fait, il y a 4 devant nous, 4 petits gobelets notés A, B, C, D. Le A est quasiment translucide, un peu jaune comme ça. Le B est un peu rosâtre, le C est franchement beaucoup plus rose et le D tourne un peu vers le jaune rose comme ça. Donc je laisse mes petits collègues goûter et noter. Ils ont à côté effectivement cette fiche avec des petits smileys. Et donc on va voir ce qu'ils en retirent de tout ça.
Allez, on va être gentil. Il n'y avait rien de vraiment dégueulasse. On va le dire comme ça.
J'espère.
Moi, j'aurais eu tendance à le mettre un peu tous la même chose. Là.
Un peu tous la même chose, oui.
Oui, on est dans du mezzo, allez.
D'accord.
Ouais, très légèrement sucré.
Un peu doucereux comme ça. Écoutez, voilà. Rien qu'à regarder, moi j'ai pas goûté. Hein. Et si j'imagine maintenant le goût que ça peut avoir, je vois quelque chose comme ça, un peu comme un petit peu sirupeux, un petit peu doucereux, mais rien qu'à l'œil. Donc je sais pas, ben, peut-être que j'en sais rien.
C'est oui, comme avec un tout petit peu de sirop, un petit peu sucré, mais rien de saillant, difficile à donner.
D'accord.
Goût, là,
oui, c'est une infusion assez légère. Et ce que je voulais vous démontrer à travers cet exercice, c'est que finalement, quand on voit une boisson, on a une attente par rapport à la couleur. Et en fonction de cette attente, si ça correspond ou non, notre préférence, elle va être légèrement modifiée. C'est-à-dire que si ça correspond à ce qu'on attend, on va plus apprécier, alors que si, par exemple, on a une couleur rouge forte pour cette infusion de plantes qui peut nous surprendre, du coup, on est un petit peu déstabilisé, on a un peu tendance à moins bien aimer. De la même manière, lorsque une plante n'est pas d'une couleur attendue, ça nous trouble.
Par exemple, là, si je prends le gobelet A que j'ai pas encore goûté, c'est légèrement un petit peu jaune, donc j'imagine que ça doit être un tout petit peu citronné. J'aime bien ça généralement, je goûte. Ça l'est pas du tout, je trouve ça pas bon, effectivement. Voilà, donc c'est vraiment ça que vous vouliez prouver, en Kéros. Blaise Mélanzer.
Oui, alors moi j'ai eu l'occasion de manger une fois une fondue bleue, c'était pas génial.
Voilà.
Alors c'est vrai que j'ai eu une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de faire de goûter deux vins du même endroit, etc. Un blanc, un rouge, les yeux bandés. On était 10, il fallait juste dire lequel était le blanc, lequel était le rouge, et il y en a 7 qui se sont trompés. Parce que c'est fou, c'est fascinant, c'est tout le temps comme ça.
Oui, c'est fou parce qu'on se dit non, je vais pas me faire avoir, et en fait quand on fait l'expérience, c'est pas si facile.
Sarah,
comment se fait-il que lorsque je me bouche le nez, ça a le même goût? Alors que tout à l'heure, je me bouchais le nez, j'avais pas le même goût.
Alors, c'est parce que dans celui-ci, j'ai mis un petit peu de sucre. Donc, quand on se bouche le nez, on perçoit seulement les saveurs qui sont perçues par la langue. Donc, sucré, salé, acide, amer et umami. Et là, ils ont tous ce goût sucré.
Donc. Est-ce que vous savez pourquoi, je pose la question à tous les trois en fait, dans certains restaurants maintenant on commence à aussi mettre des fleurs avec la nourriture et des fleurs qui se mangent?
Je pense que c'est effectivement une image appétante qui donne envie de manger la salade.
Tout simplement. Pourtant, les goûts sont pas extraordinaires. Pourtant, les fleurs sont très colorées et elles ont souvent peu de goût.
Oui, mais c'est vrai qu'un plat appétissant favorise l'appétit par rapport à un plat qui serait moins décoré.
Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on dit aux cuisiniers, mettez, si possible, plusieurs couleurs différentes sur votre assiette, parce que si c'est tout plat, ça nous paraît fade, même si ça ne l'est pas.
Tout à fait, oui.
Donc, moralité, on mettra un restaurant ici, au milieu du Jardin de l'Évolution.
Exactement, exactement. On va pas le faire aujourd'hui, puisque CQFD ben, touche à sa fin. Hein. Il est 10h58 et presque 30 secondes. Cette émission spéciale Botanica, et aussi pour le Jardin de l'Évolution à Neuchâtel, ça va se terminer maintenant. On va encore dire merci, bien entendu, à nos trois invités. Donc, Blaise Mulhauser, le directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, puis à toute son équipe aussi, qui nous a super bien accueillis.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais. On va dire aussi merci à Saskia Binchedler, maître assistante à l'Université de Neuchâtel, et à Caroline Reverdy, spécialiste des saveurs et des senteurs. Pour tout savoir sur Botanica, sur tous les jardins botaniques, etc., il y a des liens qui sont sur notre page www.rts.ch/CQFD. Oui, Stéphane?
Je dirais aller sur l'île de Brissago.
Oui,
voilà, conseil du jour.
On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un superbe jardin botanique. Avec nous ici à Neuchâtel, en régie, il y avait Jérôme Nisbaum et Alexandre Dubin. Quant à tout le reste, les jingles, les disques, ils ont été assurés par Jean-Claude Gailly de Pilezanne. Donc cette émission a été préparée par Sarah Diren et Stéphane Delettreau. Je vais vous retrouver lundi matin à 10h pour une nouvelle édition de CQFD. Mais là, on va retourner à Lausanne pour les infos et juste après pour Tribu avec Laurent Caspary. Bonjour Laurent.
Bonjour Silvio.
Vous allez aussi rester dans la nature, mais vous, la nature en ville.
Oui, tout à fait. On va poursuivre cette matinée verte que vous avez initiée avec le Jardin botanique de Neuchâtel et Botanica. On va parler des relation entre la ville et la nature. A priori, c'est un couple qui ne va pas ensemble. Et ben, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Ça va même bien ensemble avec notre invité Joël Salomon Cavin.
Il y a même une plus importante diversité souvent en ville que dans nos campagnes. Bonne émission, bonne
Merci.
Journée.